Cinquième partie, 46. Un homme vêtu de noir entra un matin dans la ville et alla frapper au palais de la Zinzoline. Les laquais lui dirent qu'il ne pouvait parler à la dame. Il insista. On tenta de le chasser. Il leva son bâton blanc d'un air impassible. Sa figure froide et son obstination firent peur à cette valetaille superstitieuse qui le prit pour un spectre et se dispersa devant lui. Un petit page entra tout effaré dans la salle où Zinzoline traitait ses convives. « Un abatone, un abataccio, disait-il, venait d'entrer de force dans la maison, frappant de son bâton ferré les gens de la signorina, les porcelaines du Japon, les statues d'albâtre, les pavés de mosaïque, faisant un affreux dégât et proférant de terribles malédictions. » Aussitôt, tous les convives se levèrent, excepté un qui dormait, et voulut recourir au devant de l'abate pour le chasser. Mais la Zinzoline, au lieu de partager leur indignation, se renversa sur sa chaise en éclatant de rire. Puis elle se leva à son tour, mais pour leur imposer silence et leur enjoindre de se rasseoir. « Place, place à l'abbé, dit-elle. J'aime les prêtres intolérants et colères. Ce sont les plus damnables. Qu'on fasse entrer sa seigneurie apostolique, qu'on ouvre la porte à deux battants et qu'on apporte du vin de Chypre. » Le page obéit, et quand la porte fut ouverte, on vit venir au fond de la galerie la majestueuse figure de Traînemort. Mais le seul convive qui eût pu le reconnaître et le présenter dormait si profondément que ces explosions de surprise, de colère et de gaieté ne l'avaient pas seulement fait tressaillir. En voyant de plus près le prétendu ecclésiastique, les joyeux compagnons de la Zinzoline reconnurent que son vêtement étranger n'était pas celui d'un prêtre. Mais la courtisane, persistant dans son erreur, lui dit en allant à sa rencontre et en se faisant aussi belle et aussi douce qu'une madone, « Abbé, cardinal ou pape, sois le bienvenu et donne-moi un baiser. » Traînemort donna un baiser à la courtisane, mais d'un air si indifférent et avec des lèvres si froides qu'elle recula de trois pas en s'écriant, à moitié colère, à moitié épouvantée, « Par les cheveux dorés de la Vierge, c'est le baiser d'un spectre !» Mais elle reprit bientôt son effronterie, et voyant que Traînemort promenait un sombre regard d'anxiété sur les convives, elle l'attira vers un siège placé auprès du sien. « Allons, mon bel abbé, dit-elle en lui présentant sa coupe d'argent ciselée par Benvenuto et couronnée de roses à la manière des voluptueuses orgies de la Grèce. » Réchauffe tes lèvres engourdies avec ce Lacryma Christi. » Et elle se signa d'un air hypocrite en prononçant le nom du Rédempteur. Dis-moi ce qui t'amène vers nous, ou plutôt ne me le dis pas, laisse-moi le deviner. Veux-tu qu'on te donne une robe de soie et qu'on parfume tes cheveux? Tu es le plus bel abbé que j'ai jamais vu. Mais pourquoi votre miséricorde fronce-t-elle le sourcil sans me répondre? « Je vous demande pardon, madame, répondit Traînemort, si je réponds mal à votre hospitalité. Quoique je sois entré ici à pied comme un colporteur, vous me recevez comme un prince. Je ne m'arroge point le droit de mépriser vos avances, mais je n'ai pas le temps de m'occuper de vous. Ma visite a un autre objet, Pulchéri. » « Pulchéri, dit la Zinzoline en tressaillant, qui êtes-vous ? Pour savoir le nom que ma mère m'a donné, de quel pays venez-vous? Je viens du pays où est maintenant l'Elia, répondit Traînemort en baissant la voix. Béni soit le nom de ma sœur, reprit la courtisane d'un air grave et recueilli. Puis elle ajouta d'un ton cavalier, quoiqu'elle m'ait légué la dépouille mortelle de son amant. Que dites-vous? Reprit Traînemort avec épouvante. « Avez-vous déjà épuisé tant de jeunesse et de sève? Avez-vous déjà donné la mort à cet enfant qui n'avait pas encore vécu ?»« Si c'est de Sténio que vous parlez, répondit-elle, Rassurez-vous, il est encore vivant. Il a bien encore un mois ou deux à vivre, ajouta un des convives en jetant un regard insouciant et vague sur le sofa où dormait un homme dont le visage était enfoncé dans les coussins. Les yeux de Trainmore suivirent la même direction. Il vit un homme de la taille de Stenio, mais beaucoup plus fluet et dont les membres grêles reposaient dans un affaissement qui annonçait moins l'ivresse que la fièvre. Sa chevelure fine et rare tombait en boucles déroulées sur un cou lisse et blanc comme celui d'une femme, mais dont les contours sans rondeur trahissaient une virilité maladive et forcée. « Est-ce donc là Stenio ?» dit Trainmore en attirant Pulcherie dans une embrasure de croisée et en fixant sur la courtisane un regard qui la fit involontairement pâlir et trembler. « Un jour viendra peut-être, Pulcherie, où Dieu vous demandera compte du plus pur et du plus beau de ses ouvrages. Ne craignez-vous pas d'y songer ? Est-ce donc ma faute si Stenio est déjà usé ?» Quand nous tous qui sommes ici et qui menons la même vie, nous sommes jeunes et vigoureux. Pensez-vous qu'il n'ait pas d'autre maîtresse que moi? Croyez-vous qu'il ne s'enivre qu'à ma table? Et vous, monseigneur, car je vous connais à vos discours et sais maintenant qui vous êtes, n'avez-vous pas connu la vie joyeuse et n'êtes-vous pas sorti des bras du plaisir riche de force et d'avenir? D'ailleurs, si quelque femme est coupable de sa perte, c'est Lélia qui devait garder ce jeune poète auprès d'elle. Dieu l'avait destiné à aimer religieusement une seule femme, à faire des sonnets pour elle, à rêver du fond d'une vie solitaire et paisible les orages des destinées plus actives. Nos orgies, nos ardentes voluptés, nos veilles bruyantes, il devait les voir de loin, dans le mirage de son génie, et les raconter dans ses poèmes, mais non pas y prendre part, mais non pas y jouer un rôle. En l'invitant aux plaisirs, est-ce que je lui ai conseillé de quitter tout le reste? Est-ce que j'ai dit à Lélia de le bannir et de l'abandonner? Ne savais-je pas bien que, dans la vie des hommes comme lui, l'ivresse des sens devait être un délassement et ne pouvait pas être une occupation. Venez-vous ici pour le chercher, pour l'enlever à nos fêtes, pour le ramener à une vie de réflexion et de repos? Aucun de nous ne s'y opposera. Moi qui l'aime encore, je serai reconnaissante si vous le sauvez de lui-même, si vous le rendez à Lélia et à Dieu. « Elle a raison !» s'écria un des compagnons de Pulcherie qui avait saisi ses dernières paroles. « Amenez-le, amenez-le, sa présence nous attriste, il n'est pas des nôtres, il a toujours été seul parmi nous, et en partageant nos joies, il semblait les mépriser. Allons, Stenio, éveille-toi, rajuste ton vêtement et laisse-nous !» Mais Stenio, sourd à leurs clameurs, restait immobile sous le poids de ses vœux insultants, et l'abrutissement de son sommeil le plaçait dans une situation dont Trainmore sentit la honte à sa place. Il s'approcha de lui pour le réveiller. « Prenez garde à ce que vous allez faire, lui dit-on. Stenio a le réveil tragique. Personne ne le touche impunément quand il dort. L'autre jour, il a tué un chien qu'il aimait parce qu'en sautant sur ses genoux, le pauvre animal avait interrompu un rêve où Stenio se plaisait. Hier, comme il s'était assoupi, les coudes sur la table, la Emeranciana ayant voulu lui donner un baiser, il lui brisa son verre sur la figure et lui fit une blessure dont la marque, je crois, ne s'effacera jamais. Quand ses valets ne l'éveillent pas à l'heure qu'il indique, il les chasse. Mais quand il l'éveille, il les bat. Prenez garde, en vérité, il tient son couteau de table. Il serait capable de vous l'enfoncer dans la poitrine. Oh, mon Dieu, pensa Trainmore, il est donc bien changé. Son sommeil était pur comme celui d'un enfant, et quand la main d'un ami l'éveillait, son premier regard était un sourire, sa première parole une bénédiction. Pauvre Stenio, quelles souffrances ont donc aigri ton âme? Quelle fatigue ruinait ton corps pour que je te retrouve ainsi. » Immobile et debout derrière le sofa, plongé dans de sombres réflexions, Trenmore regardait Stenio, dont la respiration courte et le rêve convulsif trahissaient les agitations intérieures. Tout à coup, le jeune homme s'éveilla de lui-même et bondit en criant d'une voix rauque et sauvage. Mais en voyant la table et les convives qui le regardaient d'un air d'étonnement et de dédain, il se rassit sur le sofa et, croisant ses bras, il promena sur eux son œil hébété dont le vin et l'insomnie avaient altéré la forme et arrondi le contour. « Eh bien, Jacob, lui cria par ironie le jeune Marino, as-tu terrassé l'Esprit de Dieu ?»« J'étais aux prises avec lui, répondit Stenio, dont le visage prit aussitôt une expression de causticité haineuse, plus étrangère encore à celle que Trenmore lui connaissait. Mais maintenant, j'ai affaire à un plus rude champion, puisque me voici en lutte avec l'esprit de Marino. Le meilleur esprit, répliqua Marino, est celui qui tient un homme au niveau de sa situation. Nous nous sommes rassemblés ici pour lutter, le verre à la main, de présence d'esprit, de gaieté soutenue, d'égalité de caractère. Les roses qui couronnent la coupe de Zinzoline ont été renouvelées 3 fois depuis que nous sommes ici, et le front de notre belle hôtesse n'a pas encore fait un pli de mécontentement ou d'ennui, car la bonne humeur de ses convives ne s'est pas ralentie un instant. Un seul aurait troublé la fête, s'il n'était pas convenu que, triste ou gai, malade ou en santé, endormi ou debout, parmi les amis du plaisir, Stenio ne compte pas, car l'astre de Stenio s'est couché dès la première heure. « Qu'avez-vous à reprocher à cet enfant ? » dit Pulcheri. « Il est malade et chétif. Il a dormi toute la nuit dans ce coin. »«
Toute la nuit ?»
dit Stenio en bâillant. « Ne sommes-nous encore qu'au matin ? J'espérais, en voyant les flambeaux allumés, que nous avions enterré le jour. » « Quoi, il n'y a que 6 heures que vous êtes réunis et vous vous étonnez de n'être pas encore ennuyés les uns des autres ?»« En effet, cela est merveilleux, vu le choix et l'assortiment de vos seigneuries. Pour moi, j'y tiendrai bien 8 jours, mais à condition que j'y dormirai tout le temps. » « Et pourquoi n'allez-vous pas dormir ailleurs ?» dit Zamarelli. « Feu l'excellent prince de Bambucci, qui mourut l'an passé plein de gloire et d'années, et qui fut certes le premier buveur de son siècle, aurait condamné à l'eau à perpétuité, ou tout au moins aux galères, l'ingrat qui se serait endormi à sa table. Il soutenait, avec raison, qu'un véritable épicurien doit réparer ses forces par une vie bien réglée, et qu'il y avait autant d'impiété à dormir devant les flacons qu'à boire seul et triste dans une alcôve. Quel mépris cet homme aurait eu pour toi, Stenio, s'il t'eût vu occupé à chercher le plaisir dans la fatigue, faisant tout à contre-mesure, veillant et composant des poèmes quand les autres dorment, tombant épuisé de lassitude à côté des coupes pleines et des femmes aux pieds nus. Soit affectation, soit épuisement, Stenio ne sembla pas avoir entendu un mot du discours de Zamarelli. Seulement, au dernier mot, il souleva un peu sa tête appesantie en disant « Et où sont-elles ? Elles ont été changées de toilette afin de nous paraître au matin belles et rajeunies, répondit Antonio. Veux-tu que je te cède ma place tout à l'heure auprès de la Torquata ? Elle était venue ici sur ta demande, mais comme au lieu de lui parler, tu as dormi toute la nuit, peu m'importe, tu as bien fait, répondit Stenio, insensible en apparence à tous ces sarcasmes. D'ailleurs, je ne me soucie plus que de la maîtresse de Marino. Zinzolina, faites-la venir ici. Si tu avais fait une pareille demande avant minuit, dit Marino, j'aurais pu te faire avaler les morceaux de ton verre. « Mais il est 6 heures et ma maîtresse a passé tout ce temps ici. Prends-la donc maintenant, si elle veut. » Zinzolina se pencha vers l'oreille de Stenio. La princesse Claudia, qui est malade d'amour pour toi, Sténio, sera ici dans une demi-heure. Elle entrera sans être vue dans le pavillon du jardin. Je t'ai entendu hier louer sa pudeur et sa beauté. Je savais son secret. J'ai voulu qu'elle fût heureuse et que Sténio fût le rival des rois. « Bonne Zinzolina, » dit Sténio avec affection. Puis, reprenant son indolence, « Il est vrai que je l'ai trouvée belle, mais c'était hier. Et puis, il ne faut pas posséder ce qu'on admire parce qu'on le souillerait et qu'on n'aurait plus rien à désirer. »« Vous pouvez aimer Claudia comme vous l'entendrez, » répondit Zinzolina. « Vous mettre à genoux, baiser sa main, la comparer aux anges, et vous retirer l'âme remplie de cet amour idéal qui convenait jadis à la mélancolie de vos pensées. » « Non, ne me parlez plus d'elle, » répondit Sténio avec impatience. « Faites-lui dire que je suis mort. Je sens que dans la disposition dont je suis, elle me déplairait. Et je lui dirai qu'elle est bien effrontée d'oublier ainsi son rang et son honneur pour se livrer à un bachelier libertin. Page, prends ma bourse et va me chercher la bohémienne qui chantait hier matin sous ma fenêtre. » « Elle chante fort bien, » répondit le page dans un calme respectueux. « Mais votre seigneurie ne l'a pas vue. »« Et que t'importe ?» dit Sténio en colère. « C'est votre excellence. »« Qu'elle est affreuse, » dit le page. « Tant mieux, » répondit Sténio. « Noire comme la nuit, » dit le page. « En ce cas, je la veux tout de suite. Obéis ou je te jette par la fenêtre. » Le page obéit, mais à peine fut-il à la porte que Sténio le rappela. « Non, je ne veux pas de femme, » dit-il. « Je veux de l'air, je veux du jour. Pourquoi sommes-nous enfermés ainsi dans les ténèbres quand le soleil monte dans les cieux? Cela ressemble à une malédiction. » « Êtes-vous encore endormi que vous ne voyez pas l'éclat des bougies ?» dit Antonio. « Qu'on les éloigne et qu'on ouvre les persiennes, » dit Sténio, dont le visage pâlissait. « Pourquoi nous priver de l'air pur, du chant des oiseaux qui s'éveillent, du parfum des fleurs qui s'entr'ouvrent ? Quel crime avons-nous commis pour perdre en plein jour la vue du ciel ?»« Voici le poète qui reparaît, » dit Marino en levant les épaules. « Ne savez-vous pas qu'on ne peut boire à la lumière du jour, à moins d'être un Allemand ou un cuistre ? Un repas sans bougie est comme un bal sans femme. Et d'ailleurs, un convive qui sait vivre doit ignorer le cours des heures et ne pas s'inquiéter s'il fait jour ou nuit dans la rue, si les bourgeois se couchent ou si les cardinaux s'éveillent. « Zinzolina, » dit Sténio d'un ton d'insulte et de mépris, « l'air qu'on respire ici est infect. Ce vin, ces viandes, ces liqueurs fumantes, tout cela ressemble à une taverne flamande. Donnez-moi de l'air, ou je renverse vos flambeaux, ou je brise les glaces de vos croisées. » « C'est vous qui sortirez d'ici et qui allez prendre l'air dehors, » s'écrièrent les convives en se levant avec indignation. « Et ne voyez-vous pas qu'il en est incapable ? » dit la Zinzolina en courant à Sténio, qui tombait évanoui sur le sofa. Traînemort l'aida à le secourir. Les autres se rassirent. « Quelle pitié, se disait-il, de voir la Zinzolina, la plus folle des filles, éprise de ce poète phtisique et prendre au sérieux toutes ses affectations. « Reviens à toi, mon enfant, » disait Pulchérie, « respire ces essences, penche-toi sur la croisée. Ne sens-tu pas l'air qui arrive à ton front et qui agite tes cheveux ?»« Je sens tes mains qui m'échauffent et m'irritent, » répondit Sténio. « Ôte-les de mon visage, retire-toi, tu sens le musc. Tu sens par trop la courtisane. Fais-moi donner du rhum. Je me sens en disposition de manivrer. » « Sténio, vous êtes fou et cruel, » reprit la Zinzolina avec une grande douceur. « Voici un de vos meilleurs amis qui, depuis une heure, est près de vous. Ne le reconnaissez-vous pas ?»« Mon excellent ami, » dit Sténio, « daignez donc vous baisser, car vous me semblez si grand qu'il faudra que je me lève pour vous voir. Et il n'est pas sûr que votre visage en vaille la peine. Laquelle avez-vous perdu ? Dit Traînemort sans se courber, de la vue ou de la mémoire ? Sténio fit un geste de surprise en reconnaissant cette voix et se retournant brusquement. Ce n'est donc pas un rêve cette fois, dit-il. Comment puis-je distinguer la réalité de l'illusion quand ma vie se passe à dormir ou à divaguer ? Tout à l'heure, je rêvais que vous étiez ici, que vous chantiez les vers les plus bouffons, les plus graveleux. Cela m'étonnait, mais après tout, n'ai-je pas étonné de même ceux qui m'ont connu jadis? Et puis, il m'a semblé que je m'éveillais, que je me querellais et que vous étiez encore là. Du moins, je croyais voir votre ombre flotter sur la muraille, et je ne savais plus si j'étais endormi ou éveillé. À présent, dites-moi, êtes-vous bien un traîne-mort, ou êtes-vous comme moi une ombre vaine, un songe effacé, le fantôme et le nom de ce qui fut un homme ? Du moins, je ne suis pas le fantôme d'un ami, répondit traîne-mort, et si je n'hésite point à vous reconnaître, je ne mérite pas d'être méconnu de vous. Sténio essaya de lui serrer la main et de lui sourire tristement, mais ses traits avaient perdu leur mobilité naïve, et jusque dans l'expression de sa reconnaissance, il y avait désormais quelque chose de hautain et de préoccupé. Ses yeux, dépourvus de cils, n'avaient plus cette lenteur voilée qui sied si bien à la jeunesse. Son regard vous arrivait droit au visage, brusque, fixe et presque arrogant. Puis le jeune homme, craignant de s'abandonner au souvenir des anciens jours, se leva, entraîna Traînemort vers la table et, avec un singulier mélange de honte intérieure et de vanité audacieuse, il le défia de boire autant que lui. « Et quoi ?» dit la Zinzolina d'un ton de reproche. « Vous allez encore hâter le terme de votre vie. Tout à l'heure, vous étiez mourant, et vous allez dévorer ce qui vous reste de jeunesse et de force avec ces boissons embrasées. Osténio, partez, partez avec Traînemort. Ne rendez pas votre guérison impossible. »« Partir avec Traînemort, » dit Osténio. « Et où irai-je avec lui ? Pouvons-nous habiter les mêmes lieux ?» Ne suis-je pas banni de la montagne d'Horeb où Dieu se révèle ? N'ai-je pas 40 ans à passer dans le désert pour que mes neveux voient un jour la terre de Canaan ? Sténio serra son verre d'une main convulsive. Un voile noir sembla s'abaisser sur sa figure. Puis elle s'anima soudain de cette rougeur fébrile qui se répand en nuances inégales sur les visages altérés par la débauche et qui diffère essentiellement de la coloration fine et bien mêlée de la jeunesse. « Non, non, dit-il, je ne partirai pas sans que Traînemort ait refait connaissance avec son ami. Si le jeune homme confiant et crédule n'existe plus, il faut qu'il voie au moins le buveur intrépide. » Le voluptueux élégant qui est sorti des cendres de Sténio. Zinzolina, faites remplir toutes les coupes. Je bois aux mânes de Don Juan, mon patron. Je bois à la jeunesse de Traînemort. Mais non, ce n'est pas assez. Qu'on remplisse ma coupe d'épices dévorantes, qu'on y verse le poivre qui altère, le gingembre qui ronge les entrailles, la cannelle qui précipite la circulation du sang. Allons, page effrontée, prépare-moi ce mélange détestable pour qu'il me brûle la langue et m'exalte le cerveau. J'en boirai, dût-on me tenir de force pour me le faire avaler, car je veux devenir fou et me sentir jeune, ne fût-ce qu'une heure, et mourir après. Vous verrez, Traînemort, comme je suis beau dans l'ivresse, comme la divine poésie descend en moi, comme le feu du ciel embrase ma pensée alors que le feu de la fièvre circule dans mes veines. Allons, le vase fumant est sur la table. À vous tous, débiles buveurs, pâle débauché, je porte ce défi. Vous m'avez raillé, voyons maintenant lequel de vous osera me tenir tête. Qui donc nous délivrera de ce fanfaron sans moustache ? Dit Antonio Azamarelli. N'avons-nous point assez supporté l'insolence de ses manières ? Laissez-le faire, répondit Azamarelli. Il travaille lui-même à nous débarrasser bientôt de sa personne. Un instant après avoir avalé le vin épicé, Sténio fut saisi d'atroces douleurs. Des marbrures d'un rouge ardent se dessinèrent sur sa peau flétrie. La sueur coula de son front et ses yeux prirent un éclat presque féroce. « Tu souffres, Sténio ! » lui cria Marino avec l'expression du triomphe. « Non !» répondit Sténio. « En ce cas, chante-nous quelques-unes de tes rimes avinées !»« Sténio, vous ne pouvez pas chanter, » dit Pulcheri. « N'essayez pas !»« Je chanterai, » dit Sténio. Ai-je donc perdu la voix? Ne suis-je plus celui que vous applaudissiez avec enthousiasme et dont les accents vous jetaient dans une ivresse plus douce que celle du vin? Il est vrai, dirent les buveurs. Chante, Sténio, chante! Et ils se serrèrent autour de la table, car nul d'entre eux ne pouvait contester à Sténio le don de l'inspiration, et tous se sentaient entraînés et dominés par lui lorsqu'il retrouvait une lueur de poésie au seuil de l'énervement où l'avait jeté le désordre. Il chanta ainsi, d'une voix altérée, mais vibrante et accentuée, « Que le chypre embrasé circule dans mes veines, et façon de mon cœur les espérances vaines et jusqu'au souvenir des jours évanouis, dont l'importune image, comme au fond d'un lac par un ténébreux nuage, troublerait l'avenir. Oublions, oublions la suprême sagesse et d'ignorer les jours épargnés par l'ivresse, et de ne pas savoir si la veille était sobre ou si de nos années les plus belles déjà disparaissent, fanées avant l'heure du soir. Ta voix s'affaiblit, Sténio, s'écria Marino du bout de la table. Tu sembles chercher tes vers et les tirer avec effort du fond de ton cerveau. Je me souviens du temps où tu improvisais 12 strophes sans nous faire languir. Mais tu baisses, Sténio. Ta maîtresse et ta muse sont également lasses de toi. Sténio ne lui répondit que par un regard de mépris. Puis, frappant sur la table, il reprit d'une voix plus assurée « Qu'on m'apporte un flacon, que ma coupe remplie déborde et que ma lèvre, en plongeant dans la lie de ce flot radieux, s'altère, se dessèche et redemande encore une chaleur nouvelle à ce vin qui dévore et qui m'égale aux dieux. Sur mes yeux éblouis qu'un voile épais descende, que ce flambeau confus pâlisse et que j'entende au milieu de la nuit le choc retentissant de vos coupes heurtées comme sur l'océan les vagues agitées par le vent qui s'enfuit. Si mon regard se lève au milieu de l'orgie, si ma lèvre tremblante et d'écume rougie va cherchant un baiser, que mes désirs ardents sur les épaules nues de ces femmes d'amour pour mes plaisirs venus ne puissent s'apaiser. » Sténio, tu pâlis, s'écria Marino. C'est assez chanté, ou tu rendras le dernier soupir à la dernière strophe. C'est assez m'interrompre, s'écria Sténio avec colère, ou je t'enfonce ton verre dans la gorge. Puis il essuya la sueur qui coulait de son front, et d'une voix mâle et pleine, qui contrastait avec ses traits exténués et la pâleur bleuâtre qui se répandait sur son visage enflammé, il reprit en se levant « Oh, si Dieu me refuse une mort fortunée, de gloire et de bonheur à la fois couronnée, si je sens mes désirs d'une rage impuissante, immortelle agonie, comme un pâle reflet d'une flamme ternie, survivre à mes plaisirs, de mon maître jaloux insultant le caprice, que ce vin généreux abrège le supplice du corps qui s'engourdit dans un baiser d'adieu, que nos lèvres s'étreignent, qu'en un sommeil glacé tous mes désirs s'éteignent, et que Dieu soit maudit !» En achevant cette phrase, Sténio devint livide, sa main chancela et laissa tomber la coupe qu'il portait à ses lèvres. Il essaya de jeter un regard de triomphe sur ses compagnons étonnés de son courage et ravis des mâles accords qu'il avait su tirer encore de sa poitrine épuisée. Mais le corps ne put résister à ce combat forcené avec la volonté. Il s'affaissa, et Sténio, saisi d'une prostration nouvelle, tomba par terre sans connaissance. Sa tête frappa contre la chaise de Pulcherie, dont la robe fut rougie de son sang. Au cri de la Zinzoline, les autres courtisanes accoururent. En les voyant revenir, éblouissantes de parure et de beauté, personne ne songea plus à Sténio. Pulcherie, aidée de son page et de Traînemort, transporta Sténio sous les ombrages du jardin près d'une fontaine qui jaillissait dans le plus beau marbre de Carrare. « Laissez-moi seul avec lui, » dit Traînemort à la courtisane. « C'est à moi qu'il appartient désormais. » La Zinzoline, bonne et insouciante créature, déposa un baiser sur les lèvres froides de Sténio. le recommanda à Dieu et à train de mort, soupira profondément en s'éloignant et retourna au banquet où la joie régnait désormais plus vive et plus bruyante. « Une autre fois, dit Marino à la zinzolina en lui rendant sa coupe, tu ne prêteras plus, j'espère, cette belle coupe à ton ivrogne de Stenio. C'est un ouvrage de Cellini. Elle a failli être gâtée dans sa chute. »